Nous reprenons un texte que nous avions abordé il y a 4 semaines, je crois, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 11. C'est un où Jésus, s'approchant de Jérusalem, voit un figuier qui est couvert de belles feuilles, mais en soulevant les feuilles, pas la moindre trace de fruit ni de commencement de fruit. Et Jésus, voyant dans ce figuier l'image du peuple d'Israël, maudit ce figuier. Et donc, au verset 20, nous lisons la suite, Marc 11, chapitre 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Et Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans Dieu vous pardonne aussi vos offenses. Et nous lisons le deuxième texte dans la première épître de Jean, en écho à ce texte sur la prière. Première épître de Jean, chapitre 5. Les versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Et puis il y a un dernier verset, c'est un verset qui résume un tout peu ce que nous avons exprimé pendant toute la première partie de ce culte, la confiance en Dieu. Psaume 20, verset 8, il dit ceci en parlant de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Jusqu'ici, nos lectures. Tout ce que vous demandez ou demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà une parole forte de Jésus, à la fois magnifique et redoutable. C'est magnifique de voir Jésus nous encourager à avoir une pleine confiance en Dieu. C'est magnifique de voir Jésus nous encourager à prier fort cette confiance en Dieu et en ses ressources. Et nous encourager en sachant que lorsque nous prions, nous verrons des choses s'accomplir. C'est magnifique aussi de savoir que c'est le Seigneur Jésus qui nous fait une promesse aussi forte et que ce n'est pas n'importe quel rigolo qui nous dit les choses. C'est le Seigneur Jésus qui nous fait une promesse qui est presque comme un chèque en blanc signé de sa main. S'il nous invite, lui, à prier ainsi, on peut le faire et avoir confiance en sa promesse. C'est magnifique. En même temps, cette parole est un peu redoutable. Que faire d'une offre aussi verte? Comment l'utiliser? Est-ce vraiment un chèque entièrement blanc qui nous permettrait d'utiliser à notre guise toutes les ressources qui sont en Dieu? La prière consiste-t-elle simplement à passer commande par la foi? Ce côté absolu de promesse n'a-t-il pas aussi son revers? Une demande que nous faisons et qui n'est pas exaucée risque fort de se retourner contre nous et nous seuls. Tu n'y as pas assez cru. Tu as manqué de foi. Pas facile si en plus de la déception, il faut faire face à l'accusation. Priez avec foi. Jésus nous y invite. Essayons de découvrir ce que cela veut dire, mais aussi de nous frayer peut-être un chemin autre au milieu des écueils de ce que ça peut ne pas vouloir dire. Nous allons essayer de procéder par étapes, par quelques questions successives. Première question à nous poser, c'est Quel est l'objectif de Jésus dans cet enseignement? Que veut-il nous communiquer? Que veut-il nous apprendre? Première manière de lire ce texte, et certains l'adoptent cette manière, c'est d'y voir en quelque sorte le secret d'une prière qui a du résultat. Dans le contexte, Jésus a maudit le figuier. Sa parole a été efficace. Comment notre parole à notre tour peut être efficace? Le secret, il est là. Il nous faut, dans la prière, développer une parole qui, à l'avancée, dans la foi, proclame que ce que l'on demande, on le possède déjà. Si on fait cela, on obtient ce que l'on demande. Si on développe ce type de foi comme une parole d'affirmation forte, il y aura des changements. Car la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. Selon cette lecture, Jésus donne en quelque sorte une technique. Si l'on applique cette technique, si l'on applique cette manière de faire, cette manière de prier, on aura de l'efficacité. Il existe aujourd'hui tout un mouvement, tout un courant qui enseigne cela. On l'appelle le mouvement ou le courant « parole de foi ». Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Parmi les promoteurs de ce mouvement, il y a des noms comme Kenneth Hagin, Yonggi Cho, Benny Hinn, Kenneth Copeland. Les partisans de ce mouvement disent que la foi est en elle-même une force très puissante. La foi est en elle-même une force très puissante. Par la foi, nous pouvons obtenir tout ce que nous désirons, la santé, la richesse, la vie. Dieu veut, disent ces gens, Dieu veut nous, toutes ces choses pour nous, elles nous sont acquises, ça on ne discute même pas, c'est la base de tout. Et ce qui va mettre toutes choses en mouvement, c'est notre foi. La foi dit à la puissance de mettre les choses en mouvement. Et plus précisément, dit tenant de cette pensée, la puissance de la foi est libérée lorsque nous prononçons une parole de foi. Il faut affirmer, il faut parler, il faut dire que nous possédons déjà ce que nous demandons. Et il y a là, dit-on, une puissance rattachée à la parole qui affirme. Un des slogans du mouvement est de dire « Tu peux avoir ce que tu dis ». Tu peux avoir ce que tu dis ou tu peux obtenir ce que tu proclames. Certains ajoutent qu'il faut d'une certaine façon même visualiser nos besoins, nos attentes. On peut ensuite s'appuyer sur la promesse de l'Écriture qui nous dit que nous croyons que nous l'avons reçu, eh bien on l'obtiendra. Il nous faut proclamer que nous l'avons reçu et cela fera venir chose à l'existence. Un auteur comme Yonggi Cho compare cela à une sorte de gestation. La parole que nous prononçons a une sorte de puissance créatrice. Et si nous tenons ferme notre proclamation que nous avons déjà ce que nous croyons, à ce moment-là, cela fait advenir progressivement la désirée, comme dans une grossesse qui finalement parvient à son terme. C'est ce qu'il appelle l'incubation. Voilà la manière de comprendre ce texte. Et bien des personnes l'utilisent de cette façon-là. Et vous avez certainement déjà entendu des échos qui ressemblent un petit peu à ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez noté quand même dans ma présentation une série de glissements. Au départ, on parle de la prière. La prière, c'est l'enseignement de Jésus. Jésus dit « tout ce que vous demandez en priant », littéralement « tout ce que vous prierez et demandez ». La prière suppose que je m'adresse à Dieu. Je suis moi, Dieu est Dieu, je parle à Dieu. On est dans cette relation dès que l'on parle de la prière. Puis vous avez vu qu'on glisse à partir de là, simplement, et on parle simplement de la foi et de la puissance de la foi. Dans une perspective où c'est la foi qui elle-même a la puissance. Et on continue en disant que cette puissance de la foi est libérée au moment où je prononce la parole de foi. Et c'est cette parole que je prononce qui a une puissance créatrice. Et on lit souvent chez ces auteurs des expressions comme « nos paroles ont une puissance créatrice ». Elles font advenir ce qu'elles expriment en bien comme en mal d'ailleurs, disent-ils. Voyez-vous que quand même, d'un coup, on se retrouve très loin du départ. Il était question de prière, où on s'adresse à Dieu. Et là, on termine en disant, c'est ma parole qui a une puissance créatrice. C'est ma foi qui a la puissance de changer les choses. Et en plus, cela est mis au service de ce que je désire, de ce que je prononce. Autrement dit, c'est moi, moi, encore moi. Alors Dieu, bien sûr, est présent là-dedans. Mais son rôle consiste surtout à être le grand réservoir de ressources que ma parole et que ma foi déclenchent. En quoi a-t-on confiance dans cette optique ? En quoi a-t-on confiance pour obtenir ce que l'on demande ? On a confiance en la foi. C'est elle qui déclenche tout. On a confiance en la parole qui proclame qu'elle possède déjà. C'est elle qui a la puissance créatrice. C'est comme si Jésus avait dit « Ayez foi en la foi » ou « Ayez foi en la puissance créatrice de vos paroles d'affirmation ». Or Jésus a eu soin de dire, et ça a été son premier mot, « Ayez foi en Dieu ». On lui montre le figuier séché à sa parole et il dit « Ayez confiance en Dieu ». C'est lui qui agit. Et c'est pourquoi il précise ce que vous demandez en priant, c'est-à-dire en vous adressant à Dieu. C'est ça la définition de la prière, surtout Jésus. Croyez que vous l'avez reçu. En priant, en vous tenant devant Dieu, en vous attendant à Dieu, en comptant sur son action. Ayez foi en Dieu. Ça pose la question, y a-t-il une puissance de la foi ? Y a-t-il une puissance de la foi ? Il faut bien rendre compte que l'expression la puissance de la foi est un raccourci. C'est un raccourci. Si on reprend les termes de Jésus, il faut dire la puissance de la foi en Dieu. Puisque Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Et Jésus ne sépare jamais foi et celui qui est l'objet et la source de toute chose. Si l'on veut être tout à fait précis, il faudrait même ajouter « puissance de la foi en Dieu qui opère toute chose ». Autre test de langage. Existe-t-il quelque chose comme une puissance créatrice de la parole ? Ça, ça sonne très bien. Waouh ! Ça, c'est super biblique. La puissance créatrice de la parole. Genèse 1, bien. La puissance créatrice de la parole. Merci Seigneur pour cette belle expression. Mais de quelle parole s'agit-il, la puissance créatrice de la parole en Genèse 1 ? Il s'agit de la parole de Dieu. Dieu dit et la chose est. La parole est créatrice parce que Dieu a la puissance de créer à partir de rien et d'appeler à l'existence ce qui n'est pas. Mais cela n'appartient qu'à lui. À lui seul. Commencer à parler de la puissance créatrice de notre parole, qu'est-ce que c'est ? C'est juste attribuer à la créature ce qui appartient au créateur. Et comment ça s'appelle ça bibliquement, faire cela ? Attribuer à la créature ce qui est au créateur ? Le terme biblique, ça s'appelle de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. L'apôtre Jean nous disait, c'est le dernier mot de son épître, « Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. » Eh bien là, en voilà une, mes amis. En voilà une. Une idole bien spirituelle, la puissance créatrice de la parole. Une idole bien évangélique, bien léchée au niveau des mots. Eh bien, mais seule la parole de Dieu est créatrice. Il nous faut le dire, il nous faut le rappeler haut et fort. Alors le petit détour que nous avons fait n'est pas inutile, me semble-t-il. Il nous rappelle qu'il faut, pour bien recevoir l'enseignement de Jésus sur la prière ici, placer Dieu au centre. Placer Dieu au centre. Parler de foi et de prière ne doit jamais court-circuiter le Seigneur auquel nous nous adressons et de qui nous attendons tout. On ne peut voir et envisager la foi que dans une relation où Dieu est Dieu et où nous sommes nous et restons ce que nous sommes. Je viens sur le mouvement parole de foi. Ses partisans ne seraient probablement pas très d'accord avec mon reproche qu'ils ne mettent pas Dieu au centre. C'est bien sûr la puissance de Dieu que la foi déclenche. C'est vrai, ils disent. Mais ce qui est frappant, c'est que ce Dieu dont la puissance est déclenchée lorsque la foi se met en œuvre, ce Dieu a l'air de ne jamais pouvoir résister à la foi, quoi qu'elle demande. On part du principe que Dieu veut donner à tous la santé, la prospérité, physique, matérielle, spirituelle. Tout ce que je désire ira par définition dans le sens du cœur de Dieu. Du coup, c'est la foi et elle seule qui fait la différence. Mais on peut parfois, en pensant juste les choses comme ça, en arriver à s'étourdir dans un schéma où tout dépend de la foi et de la foi seule. Et même si on dit bien sûr que Dieu agit, c'est quand même la foi qui est au bout du compte, qui est au centre de tout. Je vais vous faire une citation absolument extrême, mais qui est quand même significative. C'est une citation d'un pasteur qui s'appelle apôtre d'abord, d'ailleurs, qui s'appelle Frederick Price. Il dit, je vais vous dire maintenant quelque chose de provocant, et c'est vrai. Je vais vous dire quelque chose de provocant, dit-il. L'homme, dit-il, doit donner à Dieu la permission d'œuvrer dans la réalité terrestre. Oui, dit-il, nous maîtrisons la situation. Dieu ne peut rien faire sur cette terre si nous ne lui donnons pas la permission par la prière. Je n'ai pas inventé. Hein. Vous voyez où on en arrive ? On dit bien sûr Dieu agit, etc. Mais à dire tellement c'est la foi qui fait avancer les choses, on arrive à inverser complètement les rôles. Dieu ne peut rien faire sur cette terre si nous ne lui donnons pas la permission de le faire par la prière. Mais dis, tu te prends pour qui, toi, en face de Dieu ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Dieu ne peut rien faire sans notre foi. C'est une autre formule, d'ailleurs, qu'on entend souvent. Elle se réclame aussi des évangiles. À Nazareth, la ville natale de Jésus, est-il dit, Jésus ne put faire aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. C'est dit dans l'évangile de Marc, chapitre 6. Comment comprendre cette expression de l'évangile qui est dit, Jésus ne put faire aucun miracle ici à Nazareth? Est-ce que ça veut dire que Dieu avait sa puissance ligotée, le pauvre, jusqu'à ce que la foi vienne pour le délivrer de son incapacité d'agir? Est-ce que c'est ça? Il ne faut surtout pas concevoir Dieu comme cela. C'est de manière souveraine que Jésus n'a pas pu faire de miracle là. C'est parce qu'il y a eu un choix de Dieu qu'il n'a pas pu avoir de miracle à cet endroit-là. Dieu a fait le choix de dire « je ne veux pas jeter des perles au pourceau ». C'est l'expression d'un jugement de Dieu, de l'incrédulité, on ne va pas en plus leur donner des miracles. C'est comme ça. Mais ce n'est pas le pauvre Dieu ligoté qui attend que la foi vienne, qu'enfin la puissance puisse sortir. Les évangiles nous prouvent largement et toujours la liberté de Dieu. Peu de fois Jésus a-t-il agi et fait des miracles malgré le peu de foi, ou malgré le manque de foi de ses disciples ? Ces exemples nous montrent que Dieu n'est pas lié par notre foi ou notre manque de foi. Il reste libre, il reste Dieu. Quant à nous, il est important que nous ayons un peu d'humilité pour rester à notre juste place, même avec toute la foi que nous pouvons avoir ou mettre en œuvre. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vu le film Bruce Tout-Puissant. Alors, bon, c'est un film assez léger, hein et qui pose quand même quelques bonnes questions. Alors, je raconte l'histoire très vite. Bruce est un journaliste. Il connaît une succession de malheurs, le pauvre, vraiment une chose après l'autre qui lui tombe dessus. Il en arrive presque à la mort et il s'en prend à Dieu, qui est responsable de la catastrophe. Et Dieu lui répond par un défi. Il lui dit, écoute, tu te plains de moi ? Je vais te donner ma puissance pendant une semaine, tu t'occupes du monde. Et d'accord, Bruce est d'accord. Et voilà Bruce qui a toute la puissance de Dieu. Et alors là, les premiers jours, c'est C'est l'ivresse. C'est vraiment l'ivresse. Bruce peut tout commander selon ses désirs. Wow, le monde entier a l'air de tourner autour de ses caprices. Mais arrive le moment où il faut prendre ses responsabilités et gérer, entre autres, la somme de prières qui sont arrivées de partout, sur tous les ordinateurs et tout et tout. Et Bruce alors choisit la facilité et la générosité. Il dit, je vais répondre oui à toutes les prières. Qu'est-ce qui se passe? Résultat, c'est la panique généralisée, c'est des émeutes de partout, parce que tout le monde, bien sûr, veut revendiquer ce qu'il a désiré, etc. Et on se retrouve vraiment à un moment où il faut y rendre son tablier parce qu'il n'arrive pas à gérer la situation. Bon, je trouve que c'est amusant, c'est léger, mais ça nous rappelle rester à notre place. Dieu est Dieu, nous sommes ce que nous sommes, avec toute la foi, avec tout ce que nous avons. C'est un peu ce que d'ailleurs Dieu dit à Job, à la fin du livre Job. Dieu lui demande, il dit, écoute, vas-y, parle-moi, instruis, dis-moi ce qu'il faut faire. Apprends-moi comment créer le monde, apprends-moi comment gérer les équilibres de la création. Avoir foi en Dieu, oui. Valoriser l'engagement de notre foi, oui, mais rester humble. Rester humble. C'est pas nous qui prescrivons ce qu'il faut faire. Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. Il faut garder ça. Alors comment alors nous approprier cette promesse de Jésus? Il faut d'abord situer cet enseignement sur la prière à l'intérieur de la conception de la prière que Jésus nous donne. Cet enseignement sur la prière, il ne faut pas le détacher de l'ensemble de la façon dont Jésus considère la prière, mais le placer à l'intérieur de la conception de la prière que Jésus nous donne. La façon dont Jésus a vécu la prière, dont il l'a envisagée, cela était présent à son esprit lorsqu'il parle ici de la prière et de la foi dans la prière. Il est important de nous dire que ce texte-là repose sur ces fondations-là. Alors, je crois que ça, on peut le résumer en une idée forte, je dirais, dans ce sens que la conception de prière donnée par Jésus dans ce texte repose ou doit être en harmonie totale avec la conception de la prière que Jésus a donnée, par exemple, dans le Notre Père. Le Notre Père, qui est l'enseignement de Jésus sur la prière, doit servir de référence pour comprendre notre texte ici. Or, à quoi nous invite le Notre Père? Le Notre Père nous invite au souci de Dieu d'abord, à la gloire de son nom, de sa sainteté, à son règne, à sa volonté. C'est dans cet esprit-là que Jésus a prié, c'est dans ce cadre-là aussi que Jésus a mis sa foi en action. Un Dieu dont on cherche d'abord la gloire, que lui soit glorifié, un Dieu qui se plaît aussi à nous accompagner, à nous soutenir dans ce que nous vivons, c'est le sens des demandes. Mais voilà le cadre dans lequel Jésus envisage la prière. Et c'est une folie de penser que la prière de foi puisse être autre chose qu'une prière qui a le souci d'entrer dans ce que Dieu veut, dans ce que Dieu aime, dans ce qui correspond à la pensée de Dieu, dans ce qui s'accorde avec la première partie de Notre Père qui dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». C'est une folie de penser que la foi puisse être autre chose que cela, nous faire entrer dans un autre cadre que celui-là. Penser que la foi puisse être une technique qui impose à Dieu ce qu'il doit faire, ou qui l'engage de telle façon qu'il soit obligé d'entrer dans ce dans quoi nous l'avons impliqué, mais c'est être à côté de la façon dont Jésus conçoit la prière, dont Jésus nous a enseigné la prière. C'est juste hors contexte que de penser la prière et la foi de cette façon-là. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça veut dire demander en mon nom, ça veut dire tout ce que vous demanderez de telle sorte que je puisse ensuite le relayer auprès du Père. Il faut que les demandes que nous fassions, Jésus puisse lui-même les prendre en charge et les relayer auprès du Père. Ça marche. Là, on est dans la ligne de ce qu'est une vraie prière. Ça, c'est une exigence incontournable. Et pour prier avec foi, il est important que nous mettions d'abord dans cette ligne-là. Il y a des fois où les choses sont très très claires. Parce que nous savons par la parole de Dieu que ce que nous demandons est vraiment dans la ligne de la volonté de Dieu. Lorsqu'il s'agit d'obéir à un commandement de Dieu, on peut demander vraiment à Dieu avec force, avec conviction, lui demander de nous prendre en charge, de nous donner les ressources pour obéir, la force, la sagesse, et de s'occuper de toutes les conséquences de cette obéissance. Je crois que là, il y a des choses où c'est très clair et c'est formidable de pouvoir rentrer vraiment dans une démarche où, oui, on avance en ayant pleine confiance que ce que l'on demande, Dieu va le faire. Mais il y a des fois où c'est un peu moins clair de savoir exactement si ce que l'on demande est fait dans la ligne de ce que Dieu veut. Lorsque, par exemple, David a projeté de construire un temple à Dieu. Un exemple où David était globalement dans la bonne ligne, c'était juste, c'était un beau projet. Mais le Seigneur avait quand même un autre projet plus large, plus généreux pour lui, en disant, ce sera mieux, c'est le fils après toi qui peut concrétiser un projet parce que ça dit ma fidélité à l'égard de toute ta dynastie, ce qui n'avait pas été le cas avec Saül autrefois. Vous voyez là, on a quelque chose qui est à peu près dans la bonne ligne, qui quand même n'est pas tout à fait dans le sens de ce que Dieu voulait. Et ce qui veut dire que prier avec foi dans ce genre de contexte demandera un temps d'écoute, un temps de recherche de la volonté de Dieu, un temps où on se met à l'écoute de sa parole, où on chemine aussi pour voir exactement quelle est la ligne que le Seigneur veut que l'on puisse suivre. Les projets de Dieu ne sont pas toujours superposés aux nôtres. Nous ne pouvons pas, au nom de la foi, lui imposer nos idées, lui imposer nos préférences, lui imposer nos calendriers. Jésus nous invite dans ce texte à une prière qui est aussi, me semble-t-il, cette dimension-là, parce que c'est comme cela qu'il voyait la prière dans son ensemble. Maintenant, Jésus nous invite aussi, dans notre texte, à une prière qui est assez précise, qui est assez, on va dire, intentionnelle. Jésus dit, ce que vous priez et demandez, croyez que vous l'avez reçu. Et donc Jésus nous dit aussi, la foi, c'est ouvert, oui, à Dieu, enfin, dans ce cadre que j'envisage les choses, mais ça veut dire aussi savoir avoir une prière qui puisse être très précise à certains moments, aller jusqu'à des demandes très, très nettes. Et je dirais, il me semble important, nous aussi, de nous rappeler que oui, c'est une des intentions de la prière. Jésus nous oriente ici vers une prière intentionnelle, bien, bien précise. Mais je crois qu'il est utile, à la fois pratiquement et spirituellement, de commencer par une foi qui se vit d'abord dans l'ouverture. Si je veux aller vers quelque chose, si je cherche à entrer très précisément dans un chemin, commencer par une expression de notre foi, de notre confiance en Dieu de manière large. J'ai confiance en toi. Je m'attends à toi, Seigneur, pour te diriger. Je crois que tu vas le faire. Je suis en paix. J'y compte vraiment. Et en partant du plus large, on peut progressivement alors avancer avec Dieu vers des demandes qui pourront se préciser de plus en plus parce que l'on verra, parce que le Seigneur pourra nous montrer aussi, dans le cours des choses, par sa parole, par toutes sortes de moyens, comment avancer. Mais je crois que c'est important de nous dire que nous pouvons faire ce chemin progressivement. La parole de Jésus ici ne nous oblige pas tout de suite à savoir la chose précise à demander, à laquelle on s'accrochera coûte que coûte, pour y tenir dans la foi et pour l'obtenir. Il y a place pour des demandes plus larges, plus ouvertes, que nous pouvons adresser à Dieu avec foi et qui entrent totalement dans cette promesse que Dieu nous fait. Je vais tout à l'heure, juste après le culte, partir pour notre conférence pastorale à Évian. Nous aurons l'une ou l'autre discussion un petit peu délicate et qu'il faudra piloter. Je demande à Dieu qu'il nous dirige. Et je crois que j'aborderai ces discussions avec confiance que Dieu, oui, va vraiment nous diriger. Elle servira à faire avancer les choses et il sera là. Mais en disant à Dieu, j'ai confiance que tu nous diriges dans cette discussion, je ne vais pas, par exemple, lui demander de faire un sans-faute dans ma présidence de ces débats. Je ne vais pas lui demander forcément cela. Ou je ne vais pas lui demander forcément, très précisément, que ma manière d'envisager la fin du débat doive prévaloir. Si à un moment donné, dans une situation où je ne trouve pas la bonne manière de réagir, mais que quelqu'un d'autre la trouve, ce sera très bien comme cela. Et si j'avais pensé à une manière dont la discussion, un endroit où la discussion pourrait aboutir, qu'elle s'enrichit de quelque chose qui fait qu'on a un autre aboutissement, ce sera très bien. Vous voyez, c'est juste pour dire que nous n'avons pas besoin de nous fixer absolument sur des objectifs hyper serrés, hyper pointus, pour dire là, nous vivons simplement par la foi. Je peux avoir vraiment confiance en Dieu sur le fait que voilà, Dieu va nous diriger là, je m'avance dans cette perspective-là, c'est une autre manière de vivre cette foi qui croit profondément que Dieu va faire ce qu'on lui demande et qui avance dans cette perspective-là. J'ai l'impression que, si vous voulez, la foi, c'est un peu comme un zoom. Hein. On a tous maintenant des appareils photo avec des zooms. Il y a un champ qui peut être beaucoup plus large et parfois un champ plus restreint. Hein. On vise quelque chose de... Donc il y a parfois la foi se met en œuvre avec un champ large de possibilités. Seigneur, écoute, tu répondras de cette façon, je te fais confiance. Et puis il y a des moments où on peut être à serrer un petit peu le zoom et dire, Seigneur, vraiment c'est ça, que plus précisément pour lequel j'attends ton intervention, ton secours, etc. Mais il est important, me semble-t-il, de nous dire que la foi fonctionne avec ces champs variables, comme un zoom. Et probablement, comme j'ai dit tout à l'heure, il est sage de partir plus large pour affiner ensuite vers le plus précis, plutôt que de se fixer tout de suite sur le précis et peut-être un peu à côté de ce qu'il faudrait et de se fixer seulement sur notre pensée. Mais ceci dit, important, quelle que soit l'ouverture, la précision de notre demande, l'important, c'est que nous ayons confiance en Dieu pour ce que nous lui demandons, que ce soit avec un zoom large ou un zoom plus étroit, que nous ayons confiance en Dieu pour ce que nous lui demandons. Exemple. Nous demandons d'une manière très large que Dieu nous guide. Que Dieu réalise sa volonté dans telle situation. On fait une prière très ouverte. Prier cela avec foi, ça veut dire vraiment prier en croyant que Dieu va trouver les moyens et les solutions pour nous guider et pour faire triompher sa volonté, même si nous avons vu les choses de manière très large et très ouverte. Et si nous prions, même dans une perspective très large et très ouverte, avec foi, cela veut dire que nous croyons vraiment que Dieu va agir. Et cela veut dire aussi qu'après avoir prié, nous serons plus calmes, nous serons plus confiants, plus sereins, et nous pourrons attendre vraiment de Dieu qu'il agisse. Et puis même, il y a des moments où on attendra avec expectative, en disant, mais je veux vraiment voir ce que le Seigneur va faire. Je suis impatient de le voir. C'est ça, prier avec foi, même sur quelque chose qui est très large et très ouvert. Et cela veut dire aussi que si peut-être on tarde à voir venir les choses, on continuera à attendre fermement et en se disant, j'ai demandé au Seigneur qu'il prenne en charge, qu'il manifeste sa volonté, j'attends, je vise vraiment cela. Les prières créent l'exemple d'une prière large et ouverte. Parce que ces prières même larges et ouvertes, nous disons au Seigneur, que ta volonté soit faite, je reste ouvert à toi, ces prières larges et ouvertes, doivent elles aussi être portées par un esprit de foi pour être agréables à Dieu. Ces prières-là, aussi larges et ouvertes qu'elles soient, doivent changer notre regard sur la situation. Comme c'est dit d'Anne, la mère de Samuel, elle a répandu son cœur devant Dieu, elle a répandu sa tresse, et il est dit après, son visage ne fut plus le même. Elle a confié ça à Dieu, son visage n'était plus le même. Et pareil, nous avons confié une situation à Dieu, même de manière très ouverte, parce que nous l'avons confiée à Dieu, ça fait une différence. Dieu la prend en charge désormais, cette situation. Et il nous faut avoir conscience de cela et le vivre en nos cœurs. Et c'est pour cela que Jésus nous dit, lorsque tu pries, crois que ce que tu demandes, tu l'as reçu. Crois que ta prière fait une différence parce que tu as confié à Dieu ce dont tu lui as parlé. Et nous avons lu ce beau texte du psaume 20, verset 8. Eux s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et je pense que c'est un bon test pour chacune de nos prières de demande. Et moi, je propose que nous nous interrogions régulièrement après avoir prié. Est-ce que je crois que ma prière a fait ou a contribué à faire une différence? Est-ce que je crois que ça a fait une différence? Ça a contribué à faire une différence. Et laquelle peut-être? Si nous sommes amenés à regarder à nous-mêmes et à nous dire honnêtement, j'y crois pas trop, que ça a fait vraiment une différence, c'est certainement un appel du Seigneur à mettre un peu plus de foi, à mettre un peu plus d'intensité, à mettre un peu plus d'attente Dieu dans nos prières. Je termine. La clé de tout cela. La clé de tout cela, pourquoi le Seigneur nous demande cela? La clé de tout cela, c'est simplement que Dieu aime que nous lui fassions confiance. Dieu apprécie que nous lui fassions confiance. Il aime que nous donnions cette force-là à notre amour pour lui. Il aime que nous nous attendions à lui vraiment, avec persévérance, même quand ça met du temps, avec espérance. Il aime aussi la lumière que ça met dans nos vies. Il aime la paix que nous pouvons trouver dans la foi. Il aime la joie, il aime l'élan, il aime la sérénité qu'apporte la foi et la confiance. Dieu aime que nous lui donnions du poids dans notre vie. Et il aime nous montrer aussi autour que nous aussi nous comptons pour lui. La prière, c'est un bras de fer entre Dieu et nous, entre notre foi et la volonté de Dieu. C'est pas un bras de fer où si nous avons la bonne technique, la bonne formule, nous allons pouvoir obtenir ce que nous voulons. C'est pas ça du tout. La prière, c'est une complicité. La prière, c'est un amour. Dieu aime que nous lui fassions confiance et il aime nous prouver qu'il est digne de cette confiance qu'on compte pour lui. Alors oui, dans cette perspective-là, ayons foi en Dieu. Et ce que nous prions, ce que nous demandons, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Amen.